France Culture.
Racontez-moi un peu votre vie.
On était en train de la raconter. C'est pour ça qu'on rigolait aussi.
Alors, il faut dire en français.
Oui. En breton, c'est plus difficile pour nous pour comprendre.
Oui. D'habitude, normalement, on parle, vous savez, on parle de ce qui vient de passer dernièrement, quoi. Quelquefois, à force de parler, on arrive assez loin, au début de sa vie. Hein.
Les sœurs Gouadec, vedettes à coiffe. Épisode 1, trois voix à l'unisson. Un documentaire de Maïwenn Guizhou et Gaëlle Gillon.
De tous les petits-enfants de mes mères, je suis celle qui était le plus, acharnée avec la tradition. Et elle savait ça. Et du coup, à la fin de sa vie, il y avait une phrase qu'elle disait souvent. Et presque avant de mourir, elle me l'a redite. Il faudra leur dire comme je te dis, au mot près. Elle avait un ressentiment par rapport aux journalistes. Parce que ses propos, ça a été déformé. Elle me disait, moi je te raconte des choses, mais il faudra leur dire comme je te dis.
Des voix qui chantent pour le plaisir de faire danser. Des voix qui chantent pour transmettre des histoires qu'on dit vraies, mais dont on ne sait pas grand-chose, sauf qu'elles ont traversé les générations et sont là pour être racontées. Ces voix, ce sont celles des sœurs Gouadec, trois sœurs nées au début du XXe siècle dans la communauté paysanne du centre-Bretagne. Il y a l'aînée, Marie-Vonne, surnommée Tanon, Eugénie, dite Tani, et Anastasie, aussi appelée Tazi. La première tient le café de Tréfrin, leur village natal, les deux autres sont paysannes. Toutes les trois chantent depuis l'enfance dans les champs et à l'église. Rien ne pouvait présager qu'à 60 ans passés, ces femmes chanteraient sous les projecteurs des grandes salles parisiennes, auraient leur portrait dans Paris Match et deviendraient des icônes du folk song breton. 50 ans après la visite de journalistes et de jeunes musiciens venus chez elles recueillir les voix de la tradition, nous prenons nous aussi la route de Tréfrin, avec comme guide et gardienne des mots et des histoires, Cathy Goubil, la petite fille d'Anastasie Gouadec.
Alors on va à Kerftan en breton, le village Kervatanet, le village du feu si on veut, et c'est la ferme de Pépère et Mémère qui ont toujours vécu là.
Est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs qui sont Pépère et qui...
Mémère, Mamgos, c'était Anastasie Gouadec, qui était avant toute chose une fermière, maintenant on dit agricultrice, elle disait paysanne. Elle était paysanne et Pépère, lui, il avait la servitude par rapport à la commune, il était le fossoyeur et il était cantonnier. Alors, tout de suite après le décès de mes mères en 98, j'avais un peu de mal à aller dans la maison, mais pas que moi. Hein. Ah, vous avez entendu le cloc? Alors, surprise. Bienvenue chez mes mères. De Banti, comme elle vous aurait dit, venez dans la maison. On va ouvrir les volets pour que vous voyez mieux. Voilà, une pièce unique. Donc tout est resté en l'état. Il y a tous les meubles en enfilade, avec la cheminée, accolée en lit de coin le lit des grands-parents, l'armoire, l'armoire de mariage. Alors, famille pauvre, hein, donc ils sont pas propriétaires terriens. Ils payent une Saint-Michel. Donc, des meubles qui sont simples, hein, c'est les meubles des années 30. On n'a rien touché.
Roland Becker, musicien.
À l'origine même, c'est Tanon, l'aîné, qui chantait toute seule ou presque. Et puis, il se trouve qu'elle a tenu un café à Tréfrin, elle chantait avec sa sœur Louise. Et puis après, elle a chanté avec son autre sœur, c'était nombreuse. Et l'autre sœur, c'était Tazi. Elle chantait principalement à la ferme, quoi. Après, justement, les travaux des champs... Il y a une grande tablée dans la cour et on a invité les voisins pour bosser, mais le soir, on offre le casse-croûte, le boudelard, la soupe, etc. Et les gens, bah, c'est tout simplement bon enfant, les gens chantent.
En Bretagne, comme partout, la transmission est orale. En Bretagne, en plus, le chant. Et la vie est rythmée par des chants. Des guerziou pour certains moments, des chants pour défatiguer, des chants pour donner de la hardiesse dans le travail. Donc, tout le monde chante. Les parents des sœurs Guadec chantaient, tous ses frères et sœurs chantaient, ils étaient 13, tout le monde chantait.
Ça vous dérange pas qu'on parle en français ?
Non, mais ça nous dérange un peu quand même. Parce qu'on ne sait pas trop bien le français. Alors, on a peur de ne pas bien dire. Oui. On a du mal à se
dire. Tu dis mal alors. Tu n'as pas besoin. Moi, je prends ça, moi, je prends ça, ça ira bien. C'est vrai?
Quand est-ce que vous avez appris la chanson que vous venez de chanter, là? Vous aviez quel âge,
disons? Oh, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas quel âge que j'avais. Peut-être 7 ou 8 ans. Hein. C'est mon père qui nous a appris ça.
Qu'est-ce que ça raconte, cette chanson-là, alors?
Ça raconte un peu de tout, puisqu'il y a beaucoup de choses dedans. Hein.
Pour des gens qui ne comprennent pas le breton, comment on peut leur expliquer?
Quand on leur a dit « Nauden Bem », ça veut dire qu'il a 9 personnes tous les jours à battre le blé. Parce qu'avant, on battait le blé avec le fléau. Mm-hmm. Bon, alors, c'est qu'il avait 9 personnes tous les jours à battre, tant que la moisson est durée, quoi.
Mais la chanson commence par 1, puis 2,
oui,
puis
3, jusqu'à 12. Jusqu'à 12. Mais il y a des mots dedans que moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est.
Non,
mais non justement. Non. Elle est vieille, oui, sûrement qu'elle est vieille.
Mais vous avez une idée jusqu'à où ça remonte?
Je ne sais pas.
Je ne peux pas vous dire.
On sait pas quand compte que mon père a appris cette chanson-là avec un autre aussi. Hein. Oui.
Donc le chant breton, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Puis être chanteur, c'est être raconteur d'histoire. Les sœurs Guadec, nous avons fait qu'elles deviennent les chanteuses de gavotte, quoi, les reines du candandiscan, les reines du chant à danser. Alors qu'à l'origine, pas du tout. Bah, à l'origine, ce sont des chanteuses de mélodie, de guers, de chant à écouter.
Alors les guers, d'où ça vient? Ça vient du peuple.
Élodie Jaffré, chanteuse.
Donc il n'y a pas de nom d'auteur. Où il y en a peut-être eu quelques-uns, mais en tout cas, on ne sait pas trop qui les a écrits. Mais en même temps, voilà, c'est peut-être pas ce qui est important finalement de savoir qui les a écrits, puisque elles sont là pour le collectif. Chants de mémoire, c'est des chants qui sont là pour être transmis, pour rester dans la mémoire des gens, et qui racontent souvent des faits tragiques. Donc ça peut être des meurtres, des infanticides, des séparations.
La guerre, c'est un chant pas drôle du tout, en fait. On raconte un naufrage, une histoire de viol, des trucs pas drôles du tout. L'histoire d'une femme qui enterrait ses bébés au fond du jardin, entre les choux. Ça permet peut-être d'apprendre aux jeunes, aux plus jeunes, certaines choses par rapport au viol, etc. Et les sœurs Guadec, elles étaient tellement à l'aise avec ce quotidien, là, finalement, que on les entend rire là, dans certains collectages, on les entend rire à la fin de ce genre de chanson, quoi. Parce que c'était la vie de tous les jours, quoi. Puis ces femmes-là, elles ont perdu des enfants, comme beaucoup de femmes.
Et donc, elles sont là aussi pour raconter quelque chose qui s'est passé. Donc souvent, elles vont amener un récit historique ou sur la vie de quelqu'un, mais qui vont avoir un but de transmettre quelque chose qui s'est passé, quelque chose de vrai. Alors peut-être, plutôt on pourrait dire vraisemblant en tout cas.
Et ils disent souvent, et même presque tout le temps, je vais vous dire une chanson. C'est fabuleux. On dit ça encore aujourd'hui, hein, chez les anciens. Hein. Je vais vous dire une chanson. Et quand ils ont fini leur chanson, puis qu'ils sont contents de l'avoir bien chantée, ils disent pas « Ah, c'était bien », ils disent « Ça, c'est vrai, ça ».
Est-ce que quelquefois, bon, ces chansons-là sont faites pour être transmises normalement telles quelles, de génération en génération, hein, c'est, tout ça, c'est par, jusqu'au XXe siècle, ça a été par voie orale, donc sur même plusieurs siècles, quelquefois.
Tréfrin, 1956.
Ben, il s'est passé quand même un sacré événement pour elle. Un jour de pardon à Tréfrin, là où elles habitaient, la cordonniste qui tous les ans venait jouer à la fin du pardon au café Tressard, qui était le seul, je crois, le seul café du bourg. Dans ce café-là, il y avait une arrière-salle où on faisait bal après les vêpres. C'était le dernier dimanche du mois d'août, tous les ans. Et là, en fait, il se trouve qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il était malade. Et donc, le cafetier a sollicité Tanon et Tazi en les priant vraiment, en insistant même pour qu'elles viennent chanter. Elles sont venues pour rendre service parce qu'en fait, elles ne font jamais ça. En fait. Chanter pour des gens qu'elles ne connaissent pas, hein, elles n'ont jamais fait ça. À l'église, peut-être. Et donc, ça va être le déclenchement de plein de choses, en fait. Bah, d'abord, il se trouve qu'il y a le président du Cercle Celtique de Carhaix qui est là, M. Albert Trividic, qui savait qu'elle chantait bien. Mais bon, il n'avait jamais vraiment entendu ces femmes-là chanter la gavotte, quoi. C'était plutôt des mélodies, quoi. Et du coup, on va leur demander de chanter avec le Cercle Celtique de Carhaix.
Et là, elles doivent chanter pour faire danser.
Bah ouais, mais sauf qu'elles connaissent très peu de danse, en fait. Donc il va falloir se remettre à écouter des choses, des anciens, des voisins, etc.
Elles sont au Cercle Celtique. Il faut aller aux fêtes qui vont être loin. Donc c'est une expédition, hein. C'est pas les voitures d'aujourd'hui, c'est autocar qui va faire omnibus dans toute la campagne pour récupérer sonneurs, chanteurs, danseurs. Toute la campagne, hein. Mais dans un rayon de plus de 20 km. Parfois, en été, ça pouvait être 4 fois par semaine. Et mes mères, elle va traire ses vaches, elle va se lever à 3 heures du matin. À 3 heures du matin, elle commence à traire ses vaches, mettre le lait dans les bidons, mettre le lait au bord de la route parce que le camion de lait passera le matin. Donc il faut que tout soit prêt avant 6 heures du matin. Tout le travail était fait avant. Hein. Tout était fait avant. Les festons, à l'époque, c'est pas comme maintenant, hein, ça s'arrêtait pas à minuit, une heure. Hein. Il n'y avait pas d'autorisation, il n'y avait pas de ces histoires-là. Ce qui fait que ça pouvait durer jusqu'à 4 heures du matin. Seulement, si on était aux festons, côté de Brest ou Saint-Malo, ou dans le fin fond du Morbihan, ben c'est pas les, il n'y a pas d'autoroute. Hein. Faut rentrer et il y a les bêtes à s'occuper.
Mais je travaille. Maintenant, je suis trop fatiguée, je ne peux plus chanter. Et si dans le feston. Mais autrement, je ne chante pas.
Et votre travail, c'est la vannerie?
Non, mais je fais un peu de tout. Quand je laisse les vaches dehors manger, bientôt, on va leur donner des légumes, des betteraves, et puis il faut avoir des paniers. Et comme il n'y a pas beaucoup d'hommes maintenant qui font ce métier-là, ils sont morts tous, presque. Alors moi, je vais commencer à faire. Je vais essayer toujours.
Ici, c'était l'écurie des chevaux. Ça, c'était la porcherie. Alors ici, ben, un élément très important de la ferme, moi j'ai toujours connu comme ça, hein. C'est le puits qui est toujours fonctionnel. L'auge, très importante, ici il y a des chevaux. Et les chevaux, c'est la voiture d'aujourd'hui, hein. Donc les chevaux, il faut les soigner. Donc il faut surtout bien les hydrater. Donc Pépère ou mes mères, le matin, ben, on tirait, ou nous les petits-enfants, on tire les seaux d'eau. Ma grand-mère disait ça, que le puits chantait. Et après, avec les cousins, on comptait le nombre de tours quand on remontait la chaîne. Le champ était partout. Pour traire les vaches, il y avait un petit champ, une petite ritournelle. Donc on prenait les pies de la vache. Et on faisait 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13. Et plus on le chantait,
plus le lait venait. 12, 13, 12, 13, 12 vrais laits. Et voilà. Et je fais encore avec les mains. Et ça se verra pas à la radio. Mais c'est dingue, hein, comment il y a des trucs qui remontent. Que je croyais avoir oublié.
Tout le monde ne peut pas chanter comme nous dans les vestes. Non, bien sûr. Il faut avoir, si on veut, je ne sais pas quoi, moi je dirais ça, avoir du talent pour chanter dans une veste. Non, et d'avoir l'habitude aussi de chanter dans une veste. Non, ensemble, pour faire des choses bien, comme on dit. Mais les jeunes, ils arriveront. Il y en a qui sont commencés, ils arriveront à faire des veste non comme nous, on a fait dans le temps aussi.
Qu'est-ce que vous pensez des fêtes populaires, des fest-noz, ici en Bretagne? Est-ce que ça change par rapport à ce que vous écoutiez, ce que vous entendiez?
Ah ben, ça change un peu, évidemment, monsieur, c'est plus la même musique que dans notre temps. À nous, il y avait juste que des chanteurs et puis de l'accordéon, hein, ça. Et maintenant, il y a toute sorte de musique.
C'est le début aussi de toute cette période importante de fest-noz, organisée par l'Oise Repars et d'autres. Elles vont être souvent invitées à chanter. Mais le mot fest-noz, c'est un mot qui était inventé par Louise Repars, qui était native de Poulaouen. Et à un moment, il a fait des études, et puis il est parti, et puis il s'est retrouvé professeur à Quimper, cultivé, instruit, prenant du recul par rapport à tout ça. Il s'est dit, c'est quand même dommage, on n'a plus ces fest-noz-là comme avant. Ces fêtes-là, bah forcément, tout le monde avait un tracteur, on avait changé de monde, voilà, ça s'explique simplement. Hein. C'était pas la même façon de travailler, c'était moins communautaire. Et il s'est dit, je vais retourner à Poulaouen et je vais essayer d'organiser une journée pour rassembler tout le monde. Il est allé voir les meilleurs chanteurs de Poulaouen, et ces meilleurs chanteurs lui ont dit, mais non, écoute, c'est fini ce temps-là, qu'est-ce que tu veux faire là? Moi, maintenant, je chante dans un groupe, dans un orchestre de bal. Tous les samedis, je chante Rikita, etc., Fleur de Paris et tout le bazar. Oh non, c'est fini, ça, c'est pour les ploucs, ça. Puis on a honte de parler breton, c'est fini, ça, etc. Voilà ce qu'on lui a dit, quoi. Il a fallu qu'il insiste pour remettre ça en route, quoi. Et il a créé le fest-noz.
Et ça veut dire quoi?
Les fest-noz, fêtes de nuit.
Est-ce que Tazi, votre grand-mère, elle vous a appris un chant qui vous a marqué?
Le premier qu'elle m'a appris, c'était Garnison, c'était une danse pline. Donc j'ai pas 10 ans et on est devant la cheminée avec ma cousine. Et mes mères voulaient nous apprendre les différents pas de pline. Et mes mères avaient un pas qu'elle aimait plus que les autres, c'était le pas de calac, où on danse la danse pline en faisant avec le pied droit comme une galette. Et comme ça, je vais vous le chanter quelques trucs. Alors je chante peut-être pas juste, mais... Hein. Donc il y a un appel à la danse. Et après, quand elle voyait que c'était possible de lancer le chant, elle lançait le chant. C'était que des vestes à travers, mise une garnison de l'enlure. On s'était dit, va ça travers, mise une garnison de l'enlure. Ouais, c'était notre débarriste, une garnison. Ziglandon, une garnison de l'enlure. Ouais, c'était notre débarriste, une garnison. Ziglandon, une garnison de l'enlure. Alors, il y a des appels à la danse qui sont comme des ritournelles. Alors, en breton, ça veut dire, par exemple, le canneur, celui qui chante en premier, parce que la forme de chant qu'elle chantait, ça s'appelait le can à discan. Le chant, et certains traduisent ça par le chant et le déchant, qui est un tuilage où on chante les dernières syllabes de la première phrase par celui qui répond.
On se retrouve souvent à deux, parce que donc le can à discan, c'est souvent à deux, mais quelquefois plus, comme les sœurs Wedek, qui étaient trois. Et on est face à un public de quelquefois plusieurs centaines de personnes. Et donc là, on doit se faire confiance l'un et l'autre parce qu'on n'est plus que un pour réussir à faire danser les gens. Donc il y a une certaine pression et à la fois, c'est un grand moment de partage d'énergie avec les danseurs. Les danseurs, ils attendent qu'on les fasse danser, mais ils nous soutiennent aussi en même temps quand ils dansent. On entend des fois des cris de joie... les pas des danseurs, et ça nous motive aussi. Donc tout chanteur et tout sonneur dira qu'il faut savoir danser pour faire danser les autres, pour avoir le rythme, et garder l'œil sur les pas des danseurs.
C'est la musique des pas, quoi. C'est la musique des pieds qui va primer. Et elles vont faire parfois comme un jeu où les gens pensent qu'ils connaissent le chant. On est dans une époque où les gens parlaient breton et ils connaissaient les chants des sœurs Guadec et ils connaissaient les paroles, donc ils disaient « Ah ben là, ça va s'arrêter ». Mais non, elle redoublait, elle repartait. Donc les gens rigolaient et quand elle repartait et qu'elle rajoutait des phrases ou qu'elle doublait le chant, elles avaient plus d'entrain et les gens faisaient comme inventer des pas ou il y avait un jeu qui se faisait. Il y a beaucoup de connivence. Bah, c'est pareil pour les musiciens, hein. Mais il y a énormément de connivence et ça, à un moment, ça arrive comme un danger, quoi.
Pierre Guadec Streffrine. La danse est chantée suivant le mode traditionnel du pays de la montagne par les trois sœurs Guadec. Trois grand-mères, toujours jeunes filles.
Roland Becker, à quel moment elles deviennent les sœurs Guadec, ces chanteuses?
Elles deviennent les sœurs Guadec quand, en 1960, Tani retrouve ses deux sœurs. Là, c'est vraiment le trio constitué qui va vraiment être connu à ce moment-là. Et donc, c'est le début, en fait, du succès.
Guadec, c'est leur nom de jeune fille.
Ça, c'est très rigolo, c'est qu'on les appelle les sœurs Guadec, alors qu'en vérité, elles sont mariées. Tanon, c'est Madame L'Hôpital. Tazi, c'est Madame Le Braz. Et Tani, c'est Madame Ebrel. Guadec, c'est tellement marqué qu'à tel point que les maris de ces femmes-là se font surnommer Guadec. Tiens, la Guadec, tu vas nous payer un coup. On avait eu le nom de ta femme dans le journal. Ça devient ça, quoi. Jusqu'en 1962, je crois, il n'y avait pas de micro. C'est arrivé vraiment dans le milieu populaire, rural, avec des églises. Et partout dans les églises de France, on a eu des micros tout d'un coup. Hein. Et puis, bien sûr, au music hall, quoi. Et tout d'un coup, elles se sont retrouvées à chanter devant un micro et non plus dans la ronde. Jusqu'alors, quand on chante la gavotte ou la ridée ou n'importe quelle danse, il y a des chanteurs qui chantent et qui dansent en même temps, quoi. Bah, comme ça pour la gavotte. Bras dessous, on va dire. Et là, en fait, elles se retrouvent sur une scène en hauteur avec deux ou trois micros, une sono, etc. On est dans autre chose. Donc là, en fait, elles ont l'étiquette de vedette.
Vous recevez beaucoup de courriers?
Ah oui. D'où? Aujourd'hui, j'ai eu deux. Hier, j'ai eu une. Ben, tous les jours, presque.
Qui c'est qui fait la secrétaire chez vous?
Ah, il n'y a que moi qui fais. Quand les autres reçoivent les lettres, ils les envoient ici. Je dis, mais pourquoi tu ne réponds pas? Mais ils ne peuvent pas faire non plus. On ne peut pas continuer à... On ne peut pas prendre les fesses non, tous les trois. Sinon, on se serait...
C'est une photo qui est faite devant une chapelle. Elles sont toutes les trois. Elles ont des costumes de grand dimanche. Elles ont leur coiffe brodée et leur col brodé. Le costume traditionnel breton, c'est une carte d'identité. Quand on le voit, on peut dire leur situation. Elles ont des tabliers sombres et des tenues sombres. Donc, elles sont obligatoirement des femmes mûres, des femmes mariées, ou veuve ou âgée. Marie-Yvonne, née en 1900, c'est la plus petite en taille. Elle est toute frêle parce qu'elle a fait une tuberculose, donc elle a des problèmes. Mais alors, un sacré caractère. Hein. C'est pas parce que c'est la plus petite et la plus frêle. Marie-Yvonne, c'est droit d'aînesse. Donc, quand Marie-Yvonne dit quelque chose, on suit, on discute, mais c'est Marie-Yvonne qui décide. D'ailleurs, quand elles ont commencé à être connues et qu'elles ont commencé à avoir du courrier, parce qu'il n'y a pas de téléphone, hein, donc les demandes de fesses-nons, de sortie de cercle et compagnie, ça arrive par le courrier. Le courrier est envoyé à Tâche-Lingroise, chez Marie-Yvonne. Et c'est elle qui, à pied après, va venir jusqu'ici avec la lettre, Elle va venir voir mes mères. Alors, on la voyait arriver. Tanon vient en premier voir mes mères. Il y a une raison. Parce que mes mères, c'est celles qui travaillent encore. C'est celle qui a une ferme. Donc, en priorité, il faut savoir, est-ce que tu vas faire ta moisson? Est-ce qu'il y a les betteraves à arracher? Tout va être rythmé par le travail. Alors, elle va venir, ça fait quand même 4-5 bornes hein, de chez elle. Elle va venir à pied en sabots. Elle arrive là tout en tricotant. Tricotait des chaussettes, du crochet, des machins. Puis on la voyait arriver. Puis on savait qu'il y avait une lettre, quoi. Et puis, elle savait qu'il fallait arriver pour l'heure du café. Donc, elle calculait de chez elle combien de temps pour venir jusqu'ici. Et elle sortait sa lettre. Et puis, voilà, on lisait à mes mères les nouvelles. Et après, elle allait annoncer aussi à Eugénie, à Tani, à Carré. Et tout ça se faisait à pied.
Les Sorgoadec ne sont pas payés, ou presque pas. Et l'organisateur, en fait, la règle, c'est que l'organisateur vient les chercher à Tréfrin pour les deux premières, à Carré pour la troisième, Tani. Donc on vient les chercher et on vient les ramener aussi à 4h du matin après le Fechnos, quoi. Ça leur permet de sortir de leur train-train de fermière. Pas facile. Hein. C'est le prétexte pour rencontrer des gens, en fait. Si bien que vers la fin de sa vie, même bien avant la fin de sa vie, quand elles étaient au Fechnos, Tanon, on avait du mal à la ramener une fois qu'elles avaient terminé de chanter et restaient boire des petits coups et puis discuter avec les jeunes. C'était un peu la Sarah Bernard de la musique bretonne, quoi. Il y a un petit côté toujours en piste, quoi.
Les Sorgoadec.
Est-ce que votre grand-mère et même vos grandes-tantes vous ont parlé de ce concert à Bobino en 73. Est-ce que vous en parlez ou pas?
J'y étais. J'ai été dans les loges et tout. Toute la famille, nous, on était tous présents. Donc c'était quand même une importance, parce que nous, on connaissait l'importance, le nom de cette salle. Mais c'est vrai que quand on a entendu dire à Bobino, on parlait à Bobino quand même. Si, on nous a dit, si, c'est bien Bobino. Et ma mère dit, Bobino, et on doit y aller en plus.
C'était les sœurs Guadec, vedettes à coiffe, épisode 1, trois voix à l'unisson. Merci à Cathy Goubil, Roland Becker et Élodie Jaffré. À suivre, épisode 2, Chante avec les stars.